dans les derniers temps. Alors, je vais juste vous faire un rappel de la semaine dernière. Dans les derniers temps, seront difficiles. Si vous croyez que ça va aller tranquille et mille, ben non, ce sera difficile. À cause de la mentalité du monde qui sera de plus en plus présente dans le corps du Christ. Et oui, on a été prévenus. Jésus nous l'a dit. D'autres prophètes l'ont dit. Il y aura apparence de piété, mais elle n'aura aucune force et pouvoir de transformation. Quand je dis aucune force et pouvoir de transformation, c'est-à-dire que il y a des gens qui seront capables de faire des miracles. La preuve en est, parce que Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». C'est parce que ces gens rechercheront la puissance pour la puissance, mais ils ne rechercheront pas la puissance pour voir des vies transformées. Et quand Dieu nous donne la puissance, avant tout, c'est pour transformer nos vies, transformer nos cœurs, nous rendre capables d'être, pas de faire, mais d'être, avant tout, des hommes et des femmes selon son cœur. Et comment tenir et résister? Donc on avait vu qu'il fallait d'abord s'armer à l'idée d'être persécuté. Ah, c'est un mot qui fait grincer des dents, hein, qui donne un peu de... On n'a pas trop envie de ça. Et pourtant, il est écrit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, ça. Retenez ce que la Bible dit, surtout. Retenir l'enseignement apostolique et l'appliquer à notre propre vie. Je vous rappelle que je disais que c'était important de faire attention de pas partir dans toutes sortes de doctrines, mais d'en revenir peut-être à ce que disaient les pères de l'Église, à savoir l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, etc., qui avaient connu le Seigneur et qui avaient reçu des choses par révélation. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il ne doit plus y avoir de révélation, mais attention de ne pas dévier de l'enseignement initial, de l'enseignement apostolique. Et enfin, la troisième chose qui peut nous aider à tenir et résister, c'est chercher sans cesse à se laisser transformer par la parole de Dieu et par son esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a des mystiques qui nous voient le Saint-Esprit, 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 et d'autres qui sont légalistes, c'est la parole, la parole, la parole. Les deux fonctionnent ensemble, je vous le disais. D'ailleurs, ce serait intéressant de parler de ça à l'occasion. Alors aujourd'hui, je vous parlais de quelques morceaux choisis dans 1 Pierre chapitre 4. Pierre, qui est le disciple, qui était quand même un sacré bonhomme, hein, ce Pierre. Il était chaud patate, comme on dit. C'était un chaud bouillant, hein. Et il avait parfois des excès, mais combien son cœur était entier dans tout ce qu'il était. Moi, j'aime beaucoup les pierres. Il y a des pierres dans l'Église. Pas, non, ça y est, tout de suite il sourit parce qu'il pense que je parle de Pierre-Élie. Voilà. Mais j'aime beaucoup les pierres. Les gens, les gens ont plein de feu, même s'ils sont parfois maladroits. Je les comprends, les pierres. J'aime beaucoup les pierres et les pierrettes. Et Pierre écrit ça dans un contexte quand même qui est assez particulier. Il écrit ça, vous savez, il envoie cette lettre vers l'Asie, là, en Galatie, en Phrygie, enfin, etc. Il y a plusieurs provinces, il le dit dans le début de sa lettre. Il le dit à des personnes, il écrit ça à des personnes qui sont en grande difficulté, faut le savoir, qui vivent des temps vraiment difficiles, qui vivent des temps de souffrance, d'épreuves terribles. On ne sait pas. En tout cas, ils le vivent. C'est peut-être le Covid de l'époque, je ne sais pas. La fin de toute chose est proche, dit Pierre. C'est pas le titre, hein, c'est écrit dans le texte. Hein. J'ai pris quelques passages choisis. Pourquoi? Vous verrez, il y a des petits pointillés là, parce que c'était beaucoup trop long. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour. Ça commence fort. Il dit ça à des gens qui souffrent. Il leur dit, commencez par prier. Et aimez-vous les uns les autres ardemment. C'est-à-dire que quand je vous vois, normalement, qui a déjà été amoureux ici? Moi, j'étais amoureux, hein, parce que ma femme est là. Il y a des doigts qui se lèvent doucement, tu sais. Et les jeunes là-bas, vous êtes... Non, les parents sont là. Je... Les parents sont là, on va pas leur demander. Mais moi, quand je suis tombé amoureux, c'était amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Ardemment. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pour l'édification de l'Église, pas pour Bibi ou Bibi. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ouf. Oh là là. Or, si c'est par nous qu'il commence, il parle du jugement là, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je vous invite à relire toute l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, qui est très intéressante, qui parle de l'épreuve, qui parle de la souffrance. Je me souviens à l'école biblique, Jean-Luc, on avait dû travailler sur le thème de la souffrance. J'ai gardé l'enseignement et tout ce que j'avais écrit est à jeter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était que l'épreuve et la souffrance. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Quelques pensées à retenir. Ces deux dernières années, il y a quand même des choses sur lesquelles le Seigneur nous a interpellés, que je voudrais vous rappeler brièvement, sans vous faire des leçons de morale. La première, il nous a demandé d'être sobres et sages pour prier et être à son écoute. Il n'est pas dit, soyez sobres et sages pour écouter toute foule d'enseignements. En fait, dans ce qui s'est passé, dès le premier jour du confinement, dès le premier jour, je prie, je dis, Seigneur, c'est chouette, je vais être en vacances. Non, je l'ai dit comme ça, j'ai pas honte de le dire. C'est sympa, Seigneur, je vais être en vacances à la maison sans rien faire pendant je sais pas combien de temps. Et le Seigneur m'a dit, écoute, écoute, apprends à écouter. Parce que mes frères, mes sœurs, nous ne savons pas écouter. Et le Seigneur a dit, soyez sobres et sages pour prier, pour vaquer à la prière, pour prendre du temps devant moi. La question est, qu'avons-nous fait, nous? Il nous a demandé d'exercer l'hospitalité. Vous allez me dire, oh, c'est difficile, hein, distanciation. Non, mais à l'époque, il nous a dit, prenez du temps ensemble. On a quand même, il s'est passé des choses ici, en tout cas. Et je l'ai vu dans d'autres églises, hein. Il y a des gens qui se sont connectés par visioconférence. Certains diront, ouais, mais c'est pas la vraie communion fraternelle. En attendant, moi, ce que je vis tous les matins au 30 Conneau, avec mes frères, c'est quelque chose de profond et de vrai. Et on a appris à se connaître et à vivre l'amour fraternel à travers nos prières ensemble. Et il est dit, à l'époque, enfin, il nous a rappelé quand même ces deux dernières années. Je sais pas, il a quand même chamboulé les choses. Il faut dire ce qui est. Les grosses structures ont pris un coup dans l'aile, du plomb dans l'aile, comme on dit. Et donc, que s'est-il passé? C'est qu'il y a eu des jauges, etc. C'est que, forcément, et je vous le dis clairement, hein, c'est pas Satan qui a voulu ça, hein. C'est Dieu a permis pour qu'on se retrouve en petit, pour qu'on apprenne à se connaître, à vivre la communion fraternelle, en petite assemblée, sans murmure. Parce que quand Jésus nous demande de nous assembler les uns avec les autres, mes frères et mes sœurs, c'est pour nous édifier, pour nous faire du bien, pas pour dire du mal de l'autre. La troisième chose, c'est qu'il nous a demandé de mettre nos dons au service des autres, pas au service de nous-mêmes. Je pense que le Seigneur veut qu'on rétablisse, qu'on ranime les dons que nous avons reçus de la part du Saint-Esprit. Et ça, j'en suis convaincu. Et il va continuer à former des hommes, des femmes, selon son cœur, qui vont aller et être capables de glorifier son nom à travers les dons spirituels que le Seigneur accorde à l'Église dans le but d'édifier l'Église. Et puis, il nous a demandé de remettre toutes nos vies entre ses mains. Qu'a-t-il demandé, tout simplement ? Où en es-tu, Bruno ? Où en es-tu, toi, ma fille, mon fils ? Et où en est ta vie par rapport à ce que je suis pour toi ? Quelles sont tes priorités ? Quelles sont tes envies ? Est-ce que tes envies sont les miennes ? Ou est-ce que tu me prends, entre guillemets, pour ce Dieu qui certes est un Dieu de grâce, qui certes est un Dieu d'amour, qui certes est un Dieu qui est généreux, qui veut donner ? Et toi, que me donnes-tu en retour ? Quel est ton cœur pour moi ? Enfin voilà, tout ce que je vous dis là, c'est ce que le Seigneur m'a interpellé pendant 2 ans. Hein. 2 années d'interpellation. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est beaucoup ? Quand j'ai regardé le livre, enfin non, la série The Chosen, quand je vois comment ses disciples ont répondu à Jésus, avec quelle ferveur, et du jour au lendemain, paf, il laisse tomber les choses pour le suivre, je me dis, et nous, et moi, qu'est-ce que je fais pour suivre le Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai abandonné pour le suivre ? Et dans cette série, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que rien n'est marqué dans la Bible concernant Nicodème. On connaît juste l'entrevue avec Jésus. Mais il y a quelque chose de fort et qui m'ont fait pleurer lorsque j'ai regardé, pleurer de tristesse. Je vois ce Nicodème se cacher, qui a apporté l'argent. Et Jésus sait que c'est lui qui l'a apporté, dans la série, hein, pas dans la Bible. Et ce Nicodème pleure parce qu'il n'a pas su abandonner sa position de docteur de la loi, de pharisien, pour se mettre à suivre le Seigneur. Il l'a suivi de loin. Il l'a suivi comme ça. « Ah, c'est beau ce que tu fais. Tu es un docteur venu de la loi, tu es quelqu'un qui vient de Dieu. J'ai pas tout compris. » Il admet son humilité, mais à un moment donné, il n'a pas su faire le pas de le suivre. C'est une belle image, vraiment. Je ne sais pas si c'est la réalité de ce qui s'est passé réellement pour une Nicodème, mais moi, ça m'a fait mal au ventre. Ces 2 derniers, donc, furent une période d'interpellation. Certains ont répondu favorablement au Seigneur. Ils sont tout chauds, tout bouillants, et ils veulent y aller. Ils sont chauds patates, comme on dit. Hein, en argot. D'autres, ça n'a rien changé. Leur vie les satisfaisant, ils restent religieux, tièdes. Ce qui les intéresse, c'est leur petit culte du dimanche matin. Ce qui les intéresse, c'est une petite réunion de temps en temps. Ce qui les intéresse, c'est vivre la routine, le train-train quotidien. Et puis il y en a d'autres où ça a été vraiment le temps d'un vrai relâchement. Voire, ils se sont refroidis. Voire, ils sont apostats. Vous savez ce que c'est que l'apostasie ? Si vous voulez le savoir, vous venez au bibliogroupe. C'est le meilleur moyen de faire venir du monde. C'est jeudi, 19h. En visioconférence, vous allez recevoir, on va traiter de l'apostasie. Et on va traiter dans notre bibliogroupe, on va traiter des doctrines de démons. Il y en a, paraît-il. Dans la Bible, c'est marqué dans la Bible. Un des signes de la fin des temps, c'est l'apostasie. Donc je vous dis, le Seigneur ne revient pas demain. parce qu'il reste encore l'apostasie générale, c'est l'abandon général de la foi, pas du monde. L'apostasie ne concerne pas le monde, l'apostasie concerne le croyant. Eh oui. C'est-à-dire que dans les derniers temps, il va falloir compter le nombre de chrétiens qui restent encore chaud bouillant pour le Seigneur. Eh oui, ce sera comme ça. C'est ce que dit la Bible. Oh là là! Le temps qui arrive sur l'Église est celui de la purification en vue de préparer le retour du Seigneur. Je pense que il est écrit, Marie, pas Marie-eux, il s'adresse à nous, les hommes, les vrais, les tatoués, comme disait Fernandel. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Messieurs, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est dur. Surtout quand elle n'est pas d'accord avec vous. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ta prière de ce matin, Jean-François. Dans ce que Dieu a prévu pour accomplir ses buts à travers nous, il veut ni froid, il ne veut ni tiède, il ne veut ni menteur, il ne veut ni ingrat, il ne veut pas d'orgueilleux, il ne veut pas de voleur, il ne veut pas d'hypocrite, il veut une Église purifiée, sanctifiée et pure, sainte, irrépréhensible, irréprochable. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il a encore beaucoup de boulot avec moi. Et avec vous. Et avec nous. Il a du taf, le Seigneur. Il a du boulot. Parce que l'Église, aujourd'hui, n'est pas l'Église glorieuse. Ça se saurait. Elle n'est pas l'Église sainte. Ça se saurait. Elle n'est pas l'Église purifiée. Ça se saurait. Elle n'est pas l'Église sans tache ni ride. Ça se saurait. Je me suis vu en photo avec mon toutou dans les bras. Marise a pris une photo. Je dis, oh chérie, le chien est beau. Et jeune. Moi, je deviens vieux. C'est intéressant d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. Les rides viennent quand? Avec l'âge? Bon, je m'arrête là. C'est pourquoi il commence en nous une œuvre puissante de transformation dans le but de nous préparer une grande moisson. Parce que dans ce que Dieu a prévu, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient libérés. Vous avez fait le choix de suivre le Seigneur et vous avez bien fait. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est cela. Il veut sauver les âmes. Il veut sauver des vies. Et lorsque Jésus vient sur la terre, c'est pas juste pour nous montrer l'exemple, comme j'ai entendu, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, c'est le responsable de Sarah là, en Angleterre, qui dit clairement que Jésus n'est pas venu pour nos péchés, il est juste venu pour nous donner l'exemple. C'est grave. C'est incroyable. Mais c'est une doctrine qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans l'Église aujourd'hui. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit « Je prêcherai la croix. Je prêcherai Christ mort pour les péchés des hommes. Je ne prêcherai pas autre chose. » Parce que quand je prêche la croix, je prêche que le Dieu s'est fait homme à travers son Fils. Il a été fait chair, il est venu sur la terre, il est mort, crucifié pour mes péchés. Lorsque je prêche l'exemplarité de Jésus qui est vrai, et quand je ne prêche que cela, je prêche juste, suis l'exemple de Jésus tant que tu peux bien. Je ne prêche pas la mort à moi-même. Quand je prêche la croix, je m'amène vers la croix et je dis, Seigneur, je suis mauvais en tout, bon à rien. Et je n'ai besoin que du pardon de mes péchés, d'une vie transformée. La vie, ta vie en moi, Seigneur, qui peut changer, qui peut transformer ce que je suis. Et combien, parfois, nous avons vécu une expérience forte comme ça. Nous vivons à un moment donné de notre vie une vraie rencontre avec le Seigneur. Et avec le temps, notre cœur est rempli de rides. Il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin de revenir à notre premier amour. Nous avons besoin de revenir à lui. Ce que j'ai contre toi, dit Jésus à l'Église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi. Jésus nous invite à la repentance. Oh, il nous invite à plier les genoux devant lui et à dire, Seigneur, vois les rides qui sont en moi. J'ai besoin de changer, Seigneur. Pourquoi le jugement commence-t-il par l'Église? C'est une question qu'on peut se poser. Ben parce que pour différencier le jugement de l'Église et les jugements du monde, à nous, il nous laisse le temps encore de changer. À nous, il nous laisse le temps. Parce que le jugement de Dieu pour l'Église, c'est un jugement qui est basé sur l'amour, sur sa miséricorde, ce qui n'enlève pas sa justice. Tout ce qu'un homme sème, il le récolte un jour. Le jugement du monde sera basé sur la colère, la coupe des colères de Dieu, nous dit l'Apocalypse. Le deuxième, c'est que le jugement de l'Église amènera la purification par le feu. Ainsi, les œuvres de l'Église ne pourront qu'être sainte, sans reproche, irrépréhensible. Voyez ce que Jésus dit aux pharisiens. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Si Dieu veut, dans les temps de la fin, répandre son esprit sur toute chair, envoyez sa grâce sur les nations. S'il le fait à travers nous, et il veut le faire à travers toi, il veut le faire à travers moi, il veut le faire à travers nous, il veut vraiment que l'Église soit envoyée parmi les nations. Mais quel sera le fruit si l'Église est aujourd'hui répréhensible, remplie de rides, remplie de taches? Que on va faire, si je puis dire, du sang c'est pas de l'eau comme on dit tout le temps ma belle-mère, mais on va reproduire et on va faire naître des personnes comme nous. Parce qu'elles vont ressembler à ce que nous sommes. Alors on a beau dire, oui, ils vont rencontrer le Seigneur, etc. Non. Elles vont, oui, rencontrer le Seigneur, mais elles vont faire en sorte, elles vont devenir comme ce levain. Vous savez, mais Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Moi, cette semaine, j'ai fait du pain au levain pour la première fois de ma vie. C'est intéressant de voir un peu comment il fait du levain. Mais c'est incroyable. J'ai mis une centaine de grammes de levain dans la pâte. Et la pâte, elle était aérée. Alors que d'habitude, il faut mettre de la levure, pour ceux qui font du pain, JR. Le pain fait lever toute la pâte. Quel est notre levain aujourd'hui? Est-ce que c'est un levain de pureté? De sainteté, de sanctification, de beauté, d'amour. Je pose la question. Je dis pas ça avec, arrogance ou accusation. Mais c'est le moment peut-être de réfléchir, de se dire, mais qui suis-je moi, Seigneur? Et si j'amène une personne au Seigneur, sera-t-elle, ressemblera-t-elle à toi? Mais est-ce que moi je serai, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ? Je comprends pourquoi le jugement de l'Église doit commencer par nous. Parce que dans ce que Dieu veut faire, Dieu veut que les choses soient parfaites. Parce qu'il veut que l'Église, lorsqu'elle rencontrera le Seigneur, lorsqu'elle sera amenée face à lui, que ce soit une épouse, sans tache, ni ride, glorieuse, ni rien de semblable. Et si nous ne changeons pas, l'Église ne sera pas comme ça. D'accord? Déjà, s'il revenait maintenant. Mais s'il revenait encore avec une moisson encore plus grande, Vous imaginez? Imaginez-vous un instant, ce sera pas très beau à voir, non? Je vous pose la question. Oh là là. Dans le jugement que Dieu va exercer, il va enlever les tièdes. Et c'est pas moi qui le dis. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et les froids, n'en parlons pas. Il n'aura même pas besoin de les vomir. Ils seront partis avant. Aujourd'hui, est-ce que je suis bouillant pour Dieu? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je cherche sa gloire? Est-ce que je cherche ce Dieu merveilleux qu'il est? Ce Dieu sauveur, miséricordieux, riche en bonté? Qu'est-ce que je cherche au fond de moi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors à chaque fois, on demande ça. Ah ouais, c'est vrai? Vos fils et vos filles prophétiseront. On recherche ça. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, écoutez bien ceci, de ce jour grand et terrible. Grand et terrible. Grandiose et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. La question aujourd'hui, une question essentielle pour moi, Bruno. Ce jour sera-t-il terrible ou ce jour sera-t-il un grand jour? Je vous laisse avec cette question. Répondez devant le Seigneur. Ce jour sera-t-il terrible? Moi, j'ai pas envie de passer entre les mains du Seigneur. Je préfère qu'il me juge maintenant. Je préfère que ce soit maintenant. J'ai vu une vidéo hier, ça s'appelle Yes Is, je crois. C'est des petites vidéos avec. Ils montrent une corde, vous savez. Une corde, et au départ, la corde est rouge et après elle est blanche. C'est une longue corde qui. Et ça représente notre vie, dit la vidéo. Et ce petit bout de corde, dit le narrateur, c'est ta vie. C'est ta vie ici sur Terre. Mais sache que derrière, il y a toute cette corde blanche qui correspond à des années, des millions d'années, l'éternité, etc. Il dit, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, cette petite portion va déterminer le reste? Mais je dis pas ça pour les non-chrétiens, hein. Je dis ça pour nous qui sommes croyants, disciples, en tout cas qui tendons vers le discipulat. Qu'est-ce que je vais faire du restant de ma vie? Alors, il y a des jeunes parmi nous, tant mieux. Mais il y a des plus vieux, hein. Qu'est-ce que je vais faire du restant de ma vie? Moi, Bruno, que vais-je devenir? Que vais-je faire, Seigneur? Est-ce que je vais continuer à vivre dans ce que je vis? Peut-être je me suis refroidi. Peut-être je me suis entiédi. Peut-être que les épreuves même ont tellement attristé ce que je vis que j'en ai oublié même la joie du salut. Et Pierre dit, c'est la fournaise que vous vivez. Il le dit aux disciples de là-bas, c'est la fournaise. Mais au contraire, réjouissez-vous. Au contraire, réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances du corps de Christ. Parce que vous êtes sauvés, parce que vous avez la vie éternelle, parce que c'est la plus grande joie que vous devez avoir en vous, c'est la joie du salut en vous. Et souvent, nous regardons aux souffrances de notre vie, nous regardons au poids qui est sur notre cœur, et nous en oublions que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Et parce que nous regardons aux souffrances, je ne dis pas que c'est... Je ne fais pas l'apologie de la souffrance, hein, que les choses soient claires. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie que vous souffriez. Mais quand l'épreuve arrive, quand le jugement, parce que Dieu aime et il châtie, Dieu châtie, il reprend ce qu'il aime, n'est-ce pas? C'est l'amour du Père qui nous pousse aujourd'hui à la repentance, au changement dans nos comportements, dans nos mentalités. Et cette année, ça va être une année de préparation. Ça va faire mal, mais ce sera bon. Mon petit chien, enfin qui devient grand, il se prend des douilles sur les fesses. J'ai mal au cœur quand il fait « J'en ai marre, je n'arrive plus à m'habiller, à mettre mes chaussures, elles partent dans tous les coins. » Je lui mets des petites trousses, vous savez, sur ses fesses. Et des fois, je tape un peu fort parce qu'il m'excède. Mais je l'aime, mon toutou, si vous saviez. Eh bien, je peux vous dire une chose. C'est bon qu'il prenne ses petites douilles sur les fesses. L'amour n'empêche pas le châtiment. L'amour, au contraire, pousse à la réprimande, à l'éducation et au changement. Oh là là! Ou oh oh oh! Oh là là! Il m'en a foutu plein le nez. Ou oh oh oh! Il est temps que je me reprenne. Il est temps que je change. Il est temps que je me repente. Il est temps que je me donne entièrement pour Dieu. Il est temps que je le serve. Je reviens maintenant. Est-ce que je vais être sobre, sage? Est-ce que je vais me mettre à prier d'une manière conséquente? Est-ce que je vais exercer l'hospitalité? Est-ce que je vais vivre ardemment l'amour pour mes frères et mes sœurs? Parce que l'amour ardent me pousse à faire des choses quand même. Et ne dites pas, oui, mais il y a le Covid, mais non, ça c'est pas vrai. Le Covid derrière vous, vivez ce que Dieu vous demande de vivre. L'Église a toujours été empêchée de se réunir, ça a toujours arrivé. Et tout ce, à chaque fois, il s'est passé des grandes périodes de réveil derrière. Voilà. Sans murmure, réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous murmuré sur les autres? À mettre nos dons au service des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je mets mes dons, c'est que je me donne. On ne peut pas retirer mes dons et garder Bruno de l'autre côté. C'est-à-dire que mon corps doit suivre mes dons. On est d'accord. Ça veut dire que ça m'engage à prendre du temps pour les autres. Non? Je vous ennuie, là? C'est sûr? Bon, tant mieux. Et à remettre toutes nos vies entre les mains du Seigneur. C'est un temps de consécration. Mais ce qui va en sortir, ce sera bon. Souvenez-vous ce que Dieu a dit prophétiquement ici, il y a 2 ou 3 semaines, par la bouche d'Hervé. Il l'a dit. Il a dit que cette église sera une pépinière de personnes, de ministères, de personnes qui iront, qui serviront le Seigneur avec puissance. Est-ce que tu veux faire partie de ces gens? C'est la question. Eh bien, cherche-le. Prends du temps avec tes frères et tes sœurs. Prends du temps dans les petits groupes. Prends du temps dans la prière. Prends du temps, méditez la parole de Dieu ensemble. Vous ne pouvez pas aller dans les petits groupes, mais vous avez peut-être des chrétiens voisins. Ben faites-le, priez ensemble. Cherchez Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Ça marche? Et si on prenait le temps de prier maintenant et de se consacrer? Il a...